RFI, 7h30, à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, stimuler les exportations et renforcer les liens. La Chine annonce supprimer les droits de douane pour 53 pays africains. Nouvelle étape dans la communauté de destin entre Pékin et le continent selon les mots de Xi Jinping. On est en Chine dans un instant. La nécessité, ça n'est pas le partage du pouvoir mais la refondation de la nation congolaise. Les mots de la société civile hier à Bukavu. Elle a lancé un vaste appel au dialogue dans la ville sous contrôle du M23, alors que plus au nord, Bintou Keïta est arrivée à Goma, où elle doit rencontrer Corneille Nanga. Dans ce journal aussi, des manifestations au Kenya pour réclamer justice après la mort d'un jeune homme en prison. L'ancien ministre malien Mamadou Ismaïla Konaté dénonce un coup d'état institutionnel après le maintien au pouvoir des militaires. Et puis, 4 mois après le rappel de Gildas Agonkan, le Bénin va nommer un nouvel ambassadeur au Niger. Ils étaient jusque-là 33. Désormais, 53 pays africains ne paieront plus aucun droit de douane à l'export en Chine. Annonce forte de Pékin qui s'étend donc à tous les pays du continent aux revenus intermédiaires avec qui elle entretient des relations diplomatiques. Cléa Broadhurst, c'est une annonce forte donc et la Chine n'a pas choisi le timing au hasard pour la dévoiler.
Le contexte n'est pas anodin. Cette décision chinoise intervient alors que les États-Unis viennent de leur côté d'imposer jusqu'à 50% de taxes sur certains produits africains, ravivant les tensions commerciales avec le continent. Objectif numéro 1, stimuler les exportations africaines. Les grandes économies industrielles du continent, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou encore le Maroc, pourraient en tirer des bénéfices immédiats en accédant plus facilement au marché chinois. Mais Pékin veut aussi corriger un déséquilibre structurel. La Chine affiche aujourd'hui un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l'Afrique. En facilitant l'entrée de produits africains, elle espère rééquilibrer la balance tout en répondant aux attentes de ses partenaires. Les pays les moins avancés, comme la Tanzanie ou le Mali, ne sont pas oubliés. La Chine promet un accompagnement technique et commercial, formation, marketing, soutien logistique, pour éviter qu'ils ne soient écartés. Ce geste s'inscrit aussi dans une ambition géopolitique plus large, renforcer la solidarité Sud-Sud et construire une, je cite, « communauté de destin Chine-Afrique », comme l'a souligné Xi Jinping. Un nouveau pacte économique est en préparation, il devrait s'accompagner de mesures concrètes pour faciliter les échanges commerciaux et humains. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Et notez une seule exception à cette suppression des droits de douane, l'Eswatini, qui reconnaît encore Taïwan. Pendant ce temps, les États-Unis continuent d'affiner leur stratégie en Afrique, en particulier en RDC. L'ambassadrice américaine dans le pays était hier à Lubumbashi au DRC Mining Week. Grand raout du secteur minier, Lucy Tolin a rappelé l'intérêt de son pays pour les minerais de l'est de la RDC. Mais pour cela, il faut d'abord le retour de la paix. Et c'est justement pour en discuter, entre autres, que Bintou Keïta est arrivé à Goma hier, ville sous contrôle de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. La chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, doit rencontrer Corneille Nanga, le chef du mouvement politico-armé. Pendant ce temps, à Bukavu, autre ville sous contrôle du M23, la société civile s'est rassemblée hier. Ses représentants ont tous appelé au retour de la paix et lancé un vaste appel au dialogue, Magali Lagrange.
Le président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu prend la parole. Au nom de toutes ses composantes, Mick Mutiki lance un appel général au dialogue.
Nous lançons un appel vibrant à toutes les parties impliquées dans le conflit et toutes les forces sociales de se mettre autour d'une table à travers un dialogue inclusif en respectant un cessez-le-feu immédiat. Un dialogue dont la nécessité n'est pas le partage du gâteau ou de pouvoir, mais la refondation de la nation congolaise à travers des réformes pertinentes.
Les acteurs de la société civile recommandent la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit, situation qui complique le quotidien des populations déjà éprouvées de l'est de la RDC. Pour la présidente de la nouvelle société civile congolaise aussi, le dialogue est indispensable, Mireille Mirembetassi.
Même si la guerre continue, tôt ou tard, on va finir par dialoguer. Alors, pourquoi attendre à ce que ça soit plus grave? Depuis février, ce n'était que la voix des armes qui était en train de gagner le terrain. Nous sommes fatigués. Il faut que ça cesse.
La société civile du Sud Kivu appelle également à la cohésion sociale et à la mise en place d'une justice transitionnelle pour établir les responsabilités.
Et toujours en RDC, les troupes de la SADC continuent leur retrait. Après les moyens logistiques en avril, c'est au tour des soldats sud-africains de la force conjointe de commencer à quitter le pays. Annonce de la communauté des États d'Afrique australe dans un communiqué. communiqué. Le bilan des inondations grimpe à 78 morts en Afrique du Sud. La province du Cap-Oriental, dans le sud du pays, a subi un violent épisode hivernal. Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de trouver des survivants. Y a-t-il eu des fraudes lors des élections législatives au Burundi ? Oui, répond Human Rights Watch. L'ONG réagit au lendemain de la proclamation des résultats provisoires. 96% des voix et tous les sièges en jeu pour le parti au pouvoir. La démocratie burundaise a été vidée de sa substance. Voilà ce que dit Human Rights Watch. Clémentine de Montjoie, chercheuse sur les Grands Lacs au sein de l'ONG, dénonce une élection pratiquement sans opposition.
Nous avons constaté à travers des entretiens avec des électeurs, des journalistes, des activistes à travers le pays, ainsi que des informations dans les médias, qu'il n'y a pas eu de réelle concurrence politique lors de ces élections. De nombreux Burundais, en tout cas, ressentent une frustration grandissante par rapport à la gouvernance de ce parti. Ils se trouvent dans une crise économique sévère qui persiste et qui a un impact sur la vie quotidienne des Burundais, qui sont confrontés à un taux d'inflation annuel de 40%, par exemple, des pénuries chroniques, une crise du carburant qui paralyse les transports à travers le pays. En plus de cela, il y a une crise des droits humains systémique qui est en place depuis longtemps, avec une opposition qui fait face à de graves violations, du harcèlement, des passages à tabac, mais aussi des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des meurtres, et une société civile et des médias qui sont extrêmement restreints dans ce qu'ils peuvent faire, avec un gouvernement qui est profondément hostile à toute critique, qu'elle soit réelle ou perçue.
Propos recueillis par Esdras Dikoumana, et hier sur notre antenne, l'opposant Olivier Nkurunziza parlait d'élections truquées. On a tué la démocratie, disait-il. Il est 5h37 en temps universel. C'est un texte crucial pour le gouvernement kényan. Le budget a été présenté au Parlement hier. L'an dernier, souvenez-vous, la loi de finances avait provoqué la colère et entraîné d'immenses manifestations dans le pays, forçant finalement le président Ruto à abandonner le texte. Un an plus tard, ce n'est pas contre le budget, mais contre les violences policières qu'ont manifestées au Kenya. Journée de mobilisation après la mort d'Albert Ojwang, ce jeune homme de 31 ans, arrêté pour des tweets critiques de la police et retrouvé mort dans sa cellule. Dans les rues de Nairobi, la colère ne retombe pas. Reportage Alban Tiroir.
Les manifestants demandent justice et la démission du numéro 2 de la police, Eliud Lagat. Il est à l'origine de l'arrestation d'Albert Ojwang en cause des publications sur X qui accusaient ce responsable de corruption, un motif qui met en colère Joshua Kimani.
Albert made a tweet.
Albert a publié un tweet. Si l'inspecteur général adjoint de la police s'est senti maltraité ou diffamé, il avait d'autres moyens de contester, comme les tribunaux. Là, nous entendons qu'Albert Ojwang a été torturé et personne ne mérite cela.
Le chef de la police a promis des mesures disciplinaires. Après les conclusions de l'enquête, le président William Ruto a assuré que justice serait rendue, mais les autorités peinent à convaincre. Marianne Kassina et Lenny Sikuku sont descendues dans la rue pour dire stop.
Nous ne pouvons pas faire confiance à la police. Au départ, ils ont affirmé que notre camarade s'était cogné la tête contre le mur. Il y a beaucoup de déclarations suspectes. Nous sommes fatigués.
Déjà l'année dernière, lorsqu'il y a eu des morts, on nous a promis qu'il y aurait des enquêtes, que ceux qui ont tué nos camarades seraient tenus pour responsables. Mais à ce jour, nous n'avons vu aucune justice.
Il y a près d'un an, plus de 60 personnes ont été tuées lors de manifestations anti-gouvernementales violemment réprimées. Hier, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et plusieurs personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc. Alban Tiron et Robin, RFI.
Et un officier de police a été arrêté hier soir dans cette affaire. Il devrait, selon la presse kényane, être inculpé pour le meurtre d'Albert Ojwang. Très peu de manifestations. En revanche, au Nigeria hier, le mouvement Take It Back, reprendre la main contre la vie chère et l'insécurité, n'a pas mobilisé en masse. Il faut dire que le dispositif sécuritaire était très impressionnant, notamment à Lagos et Abuja, pour contrôler, voire empêcher les cortèges. Entre colère et indignation, la classe politique au Mali réagit au maintien des militaires au pouvoir. Le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi pour accorder un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 au général Assimi Goïta. C'est la situation sécuritaire au Mali et dans la région qui est invoquée. Les responsables politiques réagissent. À l'image de l'ancien ministre Mamadou Ismaïla Konaté, il n'a pas de parti, est installé hors du Mali et au micro de David Baché, il fait part ce matin de son indignation.
Cette transition devrait être une parenthèse de rétablissement institutionnel. Elle devient un projet de gouvernement militaire à long terme. sans base populaire, sans contrôle parlementaire et sans aucun chronogramme électoral, nous sommes installés dans une dictature militaire, plus personne n'en a le doute.
À vos yeux, ce maintien au pouvoir n'est pas légitime? Vous parlez de confiscation?
Il n'est ni légitime ni légal parce qu'il ne résulte d'aucun processus électoral, d'aucun processus référendaire. On s'est contenté de réunir un certain nombre de personnes dans une salle pour les appeler des forces vives. Ce n'est ni plus ni moins qu'un autre coup d'État. Il est institutionnel celui-ci et le but est d'installer de façon durable un pouvoir militaire sans aucune base légale. Je dis non parce que depuis 1991, l'option fondamentale du Mali et des Maliens est démocratique. Ce combat de la démocratie doit prendre le pas sur tout. Bien évidemment, le peuple du Mali est souverain. Et lorsque sa souveraineté a été violée dans ces conditions-là, il revient au peuple d'en prendre conscience.
L'ancien ministre malien Mamadou Ismaïla Konaté avec David Baché. D'autres réactions sont à lire sur RFI.fr et écouter dans le prochain journal Afrique à 6h30, temps universel. 4 mois après son rappel par Cotonou, le Bénin n'a toujours pas d'ambassadeur au Niger. Nommé en juin 2023, Gildas Agonkan a été rappelé en février dernier après des propos jugés contraires à la position du Bénin. On s'en souvient, mais la situation devrait se débloquer, Jean-Luc Aplogan, parce que ça y est, Cotonou va lui nommer un remplaçant.
C'est le ministre béninois des Affaires étrangères qui va plus loin et annonce sur les médias locaux, 4 mois après, que le Bénin allait procéder dans les prochains jours, probablement à la nomination de nouvel ambassadeur au Niger. En clair, Gildas Agonkan a été rappelé et relevé de ses fonctions, sa faute des propos controversés tenus en février dernier à Gaïa lors d'une cérémonie. Devant des officiels et élus locaux nigériens, il a déclaré ceci.
Je voudrais, au nom de tous les Béninois, les autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien.
Il est applaudi, les propos flattent les oreilles nigériennes. Colère et incompréhension à Cotonou, ces propos contredisent la position officielle, surtout que pour le Bénin, il n'y a ni offense ni complot contre le Niger. Selon un proche du président béninois, personne n'avait donné cette directive-là à l'ambassadeur. Selon nos informations, le Bénin n'a pas encore introduit une autre candidature. Reste à savoir comment elle sera accueillie et traitée par Niamey, qui garde toujours ses frontières fermées et persiste dans les accusations de déstabilisation. L'ambassadeur du Niger à Cotonou, lui, est toujours en poste. Il n'a même pas été convoqué par le ministre des Affaires étrangères du Bénin après les propos accusateurs du général Tiani. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et c'est à Cotonou, où il est 6h43, que je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans 17 minutes. Et le point évidemment sur la situation en Iran, où Israël a mené cette nuit des frappes d'ampleur.